Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat comme tous les soirs sur France Culture du lundi au vendredi entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, existe-t-il une intelligence artificielle à l'européenne? La présentation aujourd'hui par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, vous l'avez entendu dans le journal, d'un plan d'action européen sur l'intelligence artificielle synthétise à la fois les espoirs et les craintes de l'Europe vis-à-vis des innovations dans ce domaine. Les Européens ont en effet l'impression d'avoir été doublés, d'avoir raté le domaine de l'informatique et des réseaux. Ils ont été doublés par les États-Unis et maintenant peut-être par la Chine et ils tentent aujourd'hui de prendre la main dans ce domaine de la collecte et de l'exploitation des données, mais aussi de l'intelligence artificielle qui utilise ces données en plaidant pour un usage responsable et éthique de ces nouvelles technologies. Nous allons en parler avec trois spécialistes de cette question. Raja Chatila, il est professeur de robotique, d'intelligence artificielle et d'éthique à la Sorbonne. Il est directeur du laboratoire d'excellence SMART et il est membre du comité d'experts de haut niveau de la Commission européenne sur ces questions. Nathalie Nevejans est maîtresse de conférences en droit privé à l'Université d'Artois, membre du comité d'éthique du CNRS et directrice de la chaire ANR IA responsable. Elle nous expliquera ce dont il est question. Et David Giblas est avec nous également. Il est directeur innovation digitale et data du groupe Malakoff Médéric Humanis. Mais pourquoi donner aux robots une forme humaine? Parce que la forme humaine est dans toute la nature celle qui donne le meilleur rendement. Nous ne sommes pas des animaux spécialisés, monsieur Bailey. Sauf au point de vue de notre système nerveux et dans quelques autres domaines, si vous désirez construire un être mécanique capable d'accomplir un très grand nombre de mouvements, de gestes et d'actes sans se tromper, vous ne pouvez faire mieux qu'imiter la forme humaine. Bonsoir à tous les trois, bonsoir Raja Chatila.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Nathalie Nevejans, merci d'être avec nous.
Bonsoir, merci.
Et bonsoir à vous, David Giblas. Bonsoir. On vient d'entendre un extrait du cycle des robots, 1956, les cavernes d'acier, premier du cycle des robots, d'Isaac Asimov. Évidemment, quand quelqu'un d'aussi peu compétent que moi dans ce domaine de l'intelligence artificielle pense à l'intelligence artificielle, il pense robot et il pense à Isaac Asimov. C'est très loin de ce que l'on peut faire aujourd'hui, Raja Chatila, en matière d'intelligence artificielle.
Oui, Isaac Asimov, c'est la science-fiction et il a imaginé des robots qui ressemblent aux humains de tout point de vue, y compris du point de vue de l'intelligence et même de capacités de raisonnement extrêmement, extrêmement fortes si on veut les comparer. Il y a d'autres personnages de science-fiction aussi, comme Data, par exemple, dans Star Trek. Mais la science-fiction reste la science-fiction. Et d'ailleurs, l'homme.
Mais néanmoins, cette science-fiction, elle a pénétré profondément notre imaginaire. Et d'une certaine façon, elle est là pour pouvoir peut-être nous empêcher de comprendre ce qui se passe aujourd'hui en matière de données et d'intelligence artificielle.
Oui, tout à fait. Parce qu'elle donne une image effectivement assez biaisée. Ce qui se passe aujourd'hui est tout à fait différent. Parce que l'intelligence artificielle, qui est développée depuis quelques années, est très très spécifique, très spécialisée. Ce sont des systèmes en fait qui sont des systèmes qui font des statistiques sur des données essentiellement, mais des statistiques très avancées hein, qui permettent d'exploiter vraiment des éléments qui sont cachés dans les données, qui sont pas perceptibles facilement. L'intelligence artificielle a d'autres ambitions. Ces ambitions sont véritablement, depuis sa création dans les années 50, de simuler l'intelligence humaine. Mais on en est très très loin. Et ce qui est aujourd'hui extrêmement puissant, ce qui est extrêmement utile, c'est effectivement d'essayer de l'utiliser, d'utiliser ces techniques d'apprentissage basées sur des données pour faire sens de ces données.
Et qu'est-ce que veut dire justement cette offensive, pourrait-on dire, européenne, cette prise de position internationale de l'Europe sur cette question de l'intelligence artificielle, telle qu'on l'a pu l'entendre dans la bouche de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, aujourd'hui, Raja Chatila?
Alors, c'est très clair. Les données sont produites tous les jours par des quantités énormes. On estime que il y a aujourd'hui 80 sextillions de données qui sont produites. Sextillions, c'est ou zettabytes, c'est 1000 milliards de milliards.
Et ça, 80 sextillions par jour?
Par an. Et ça, ça va augmenter. Ça va augmenter. Ces données sont produites par tout le monde. C'est des données personnelles, mais elles sont produites aussi beaucoup par des entreprises ou par différentes activités humaines, concernant par exemple la santé, concernant l'agriculture, concernant les données industrielles, les assurances, etc. Il faut les exploiter, ces données. Donc, c'est là que ça devient un enjeu économique très important. Les Américains ont bâti une puissance très importante sur l'exploitation des données personnelles à travers, par exemple, Google ou Facebook. La Chine a su mettre en place une politique très volontariste pour créer ses propres champions qui exploitent aussi ces données. Et là, des entrepôts de données énormes. Mais l'Europe est restée un peu en arrière.
Et l'Europe voudrait trouver sa voie propre, d'une certaine façon, Nathalie Nevejance, une voie qui soit de l'intelligence artificielle responsable ou de l'intelligence artificielle digne de confiance. Alors là, déjà, il faut comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle. On l'a bien compris en écoutant Rajasthit Chatila. Mais il faut aussi comprendre comment on entre dans cette autre façon de concevoir l'intelligence artificielle, celle de l'intelligence artificielle responsable, dont vous êtes titulaire d'une chaire ANR, justement, vous-même.
Tout à fait. Donc effectivement, c'est l'enjeu, ça va être notre force en Europe, d'avoir une intelligence artificielle qui donne confiance aux entreprises, qui donne confiance aux citoyens pour l'utiliser d'une manière sereine, manière sûre, d'une manière qui permette d'éviter que les personnes voient leurs données fuir à travers le monde. Alors cette notion de confiance, elle est très importante et c'est assez amusant parce que ça fait écho un petit peu à l'extrait que vous nous avez lu d'Isaac Asimov, puisque lui-même déjà avait essayé de trouver les clés de la confiance en créant les trois là de la robotique.
Bien sûr.
Donc on a déjà cette idée depuis déjà les années 50. Alors pour rebondir sur cette question, donc effectivement, la Commission européenne, au travers de ses travaux, notamment les experts de haut niveau, ont expliqué ce qu'ils entendaient par confiance. Alors nous avons trois critères. Le premier critère, c'est un critère très important, c'est respecter les règles de droit. L'intelligence artificielle sera de confiance si elle respecte le droit en vigueur. Le deuxième critère, c'est un critère tout aussi important, auquel je suis très sensible, ce sont les aspects éthiques. Alors comment on peut réussir à comprendre l'éthique et par rapport à ces règles juridiques? Pour dire très simplement, le droit et l'éthique, c'est pas tout à fait la même chose, puisque les règles de droit sont édictées par un État. L'éthique, c'est différent. L'éthique, c'est plutôt les réflexions entre le bien et le mal. Par conséquent, on peut imaginer que l'éthique pourrait être là pour venir compléter, soutenir, voire critiquer les règles de droit actuelles. Notamment, par exemple, tout ce qui concerne la surveillance des personnes.
La reconnaissance faciale.
Tout ce genre de pratiques qui se développent actuellement, qui au niveau juridique ne sont pas nécessairement abordées ou mal abordées ou d'une manière incomplète, eh bien l'éthique va pouvoir intervenir pour dire, voilà, quelles sont nos règles en Europe en matière éthique. On a plein de textes en matière éthique. Alors, de la même manière, le troisième clé pour une IA de confiance, il faut une intelligence artificielle qui soit fiable sur d'un point de vue technique. Donc qu'elle soit prédictible, explicable, justifiable, non piratable, etc.
C'est donc tout de même la question du contrôle de ces données qui est important. Et on a l'impression, en écoutant Thierry Breton, le commissaire européen, que cette question-là est essentielle. David Gibas, vous n'êtes pas encore intervenu dans notre discussion. Vous êtes directeur innovation digitale et data d'un grand groupe d'assurance qui s'appelle Malakoff Médéric Humanis. Donc ces questions-là, vous devez vous les poser tous les jours, à la fois parce que vous accumulez, comme l'a dit tout à l'heure Raja Chatila, des données, mais aussi de savoir comment les exploiter éthiquement, comme vient de le dire à l'instant même Nathalie Nevejance.
Oui, absolument. Je pense que c'est une question de fond quand vous décidez de déployer de manière, on va dire, assez industrielle les technologies d'intelligence artificielle dans votre entreprise. En fait, cette question de confiance.
C'est quoi développer les
En fait, c'est passer le stade de prototype. Vous avez déjà une première frontière à franchir, à savoir avoir une acceptabilité de vos collaborateurs pour utiliser ces algorithmes. Et ce qui est assez déstabilisant, c'est que, à la différence du technologie technologie classique, c'est que vous allez sur le terrain de tâches cognitives, et en fait, et vous pouvez rentrer finalement dans une confrontation entre l'humain et l'algorithme, et en règle générale sur des activités très spécifiques, quand bien même nous sommes encore sur une intelligence artificielle dite faible, eh bien, très souvent, l'algo est plus performant que l'humain.
Dites-nous ça, ce que ça veut dire, ces tâches cognitives que vous pouvez faire à vos...
Je prends un cas le premier cas sur lequel on a travaillé il y a 3 ans, puisque ça fait 3 ans qu'on s'est vraiment mis en marche forcée sur ces sujets-là, c'est un algorithme qui permettait donc à nos médecins conseils de détecter des arrêts maladie dits abusifs. Voilà.
Oui, et donc
une activité donc pour beaucoup assurée par des médecins conseils, donc quand même un niveau de formation extrêmement élevé, et nos algorithmes donc ont sorti une performance quasiment de 30% supérieure à ce que faisaient nos médecins conseils. Donc là vous êtes forcément confronté à un sujet d'acceptabilité, et donc l'enjeu pour nous a été de faire finalement de transformer cette activité-là en activité donc hybridée par l'algorithme, puisqu'on est parti du principe où la vraie valeur de l'intelligence artificielle n'est pas de remplacer l'humain, et je pense que c'est ça aussi la différence avec une IA européenne versus une IA peut-être un peu plus américaine. On est souvent sur ce continent dans une approche de la technologie pour automatiser et remplacer l'humain, alors qu'on est plus dans une démarche d'augmentation et donc d'apporter de la valeur à l'humain, et notamment à travers une focalisation sur les dossiers qui en valent la peine.
Alors, voilà. Vous savez bien que quand on pense à cela, on pense police prédictive, donc on a d'autres auteurs de science-fiction qui ont écrit là-dessus, Philip K. Dick, Minority Report, etc. Et ce que vous nous dites, c'est peut-être eh bien on peut prédire l'avenir, on peut prédire des comportements, on peut prédire des usages, et donc à partir de ce moment-là, parier sur un avenir, quand on est assureur, évidemment, on comprend l'intérêt pour vous.
Alors je pense qu'il faut pas faire dire non plus à l'IA ce qu'elle ne fait pas aujourd'hui. Je pense que donc déjà il y a un effet, je pense, de pédagogie et d'éducation.
Simple.
Voilà, l'IA reste simple. Elle peut faire certes des choses assez bluffantes, mais de là à lui confier l'automatisation totale de certains processus de l'entreprise, nous notre réponse c'est de dire non. Non, à savoir, c'est-à-dire que sur tous nos algorithmes, pardon, nous faisons pas de prescriptifs dits automatiques. Il y a toujours une garantie humaine. Il y a toujours un humain qui prend la décision. Et ça, je pense que c'est la première décision importante qui fait partie de l'éthique. C'est avoir donc une responsabilité du dirigeant pour donner la limite. Et l'autre point très important sur lequel aussi je voulais insister, c'est que pour moi l'éthique passe déjà par définir les finalités dites interdites. Quelles sont les finalités interdites que l'entreprise se donne dans l'utilisation de l'intelligence artificielle?
Mais est-ce qu'on peut contrôler l'entreprise qui se donne ces...
C'est déjà une responsabilité de dirigeant. Je pense que l'éthique, c'est donc il y a une notion de responsable sur lequel je pense ça me paraît essentiel. C'est dans l'état actuel, puisqu'on va probablement arriver sur un sujet de régulation qui n'existe pas, les outils n'existent pas, et donc le point de départ, ça reste la responsabilité des dirigeants qui doit être plus que jamais donc contrôlée et puis bien sûr respectée.
Pourquoi l'Europe s'est-elle dotée d'un comité dont vous faites partie, Raja Chatila, qui s'appelle le comité des experts de haut niveau, sur ces questions d'intelligence artificielle? C'est parce qu'il y avait donc cette voie européenne à trouver entre d'autres voies et donc avoir son chemin propre d'une certaine façon, comme on a tenté, les pays ont tenté dans les années 50 d'avoir leur chemin propre sur, je ne sais, la dissuasion nucléaire, sur tout un tas d'autres questions comme cela.
Oui, exactement. Ce groupe a été formé il y a un an et demi, donc en juin 2018, avec un mandat de 2 ans, pour faire des propositions, mener une réflexion, faire des propositions à l'Union européenne, à la Commission européenne, sur 2 sujets. Le premier sujet, c'est l'éthique. Donc c'est de là qu'est née cette recommandation pour une intelligence artificielle digne de confiance, qui a été définie avec 3 piliers que Nathalie a énoncé tout à l'heure, mais qui se traduisent en quelque chose de plus concret. Il y a des exigences et des processus à mettre en œuvre. Et le deuxième travail qui a été confié à ce groupe, c'est de faire des recommandations de politique et de gouvernance et d'investissement, dont s'est beaucoup inspiré Ursula von der Leyen aujourd'hui.
C'est-à-dire, alors, donner des exemples, ça veut dire quoi, c'est cette question d'investissement? On investit plutôt dans quoi que dans d'autres choses?
Oui, enfin, c'est dans une démarche d'investissement qui associe plusieurs choses, en particulier, par exemple, aider le secteur privé à véritablement monter en puissance dans le domaine de l'intelligence artificielle.
Donc là, on est plutôt dans le soft power par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine et à d'autres grands acteurs, c'est
oui.
ça?
Oui. En Europe, on donne plutôt le cadre, les moyens. On énonce des moyens de soutien Alors qu'aux États-Unis, c'est l'initiative privée, et en Chine, c'est l'initiative publique, mais qui est très dirigiste.
Est-ce qu'on peut dire, Nathalie Nevejans, que les États-Unis se sont déployés, par exemple, et la Chine d'ailleurs aussi, dans un cadre où la question juridique, et vous êtes vous-même juriste, était assez peu réglée autour de ces questions de données, autour de ces questions d'intelligence artificielle, et qu'on en est dans un deuxième temps à tenter de rattraper par le droit ce qui s'est déjà fait dans les actes des entreprises en particulier.
Voilà. Effectivement, on constate que les États-Unis et la Chine spécialement ne se sont pas vraiment intéressés aux aspects juridiques de protection des données. D'ailleurs, maintenant, ils commencent à le regretter, étant donné que vous avez certains États qui évoque le RGPD, donc le règlement européen concernant la protection des données personnelles, qui évoque ce RGPD pour comme une espèce de d'objectif à atteindre, donc une protection atteinte pour les données. Mais néanmoins, ils n'ont pas régulé, adopté de texte officiel sur cette question. Et donc nous restons quand même les leaders mondiaux en matière de protection des données. Et finalement, d'autres pays, comme certains pays africains, nous suivent.
La position européenne. Ouais. Je vous propose d'écouter Aurélie Jean, qui est docteur en sciences des matériaux et de mécanique numérique. Elle était justement sur RTL ce matin. Elle est l'auteur de L'autre côté de la machine, voyage d'une scientifique au pays des algorithmes.
Protéger les données personnelles ou non personnelles, c'est un enjeu stratégique parce que c'est un enjeu bien évidemment économique, parce que si on décide de tout fermer, on va pas pouvoir partager les données, on va pouvoir rien faire. Mais c'est aussi un enjeu stratégique d'un point de vue éthique, et là l'Europe a une place importante et à se positionner sur la place mondiale.
C'est pas le cas pour l'instant.
Alors si, parce qu'on a le RGPD, il faut pas l'oublier quand même.
Oui.
Le RGPD qui d'ailleurs influence d'autres pays, dont les États-Unis, donc il faut pas non plus oublier ça.
Donc je rappelle que c'est la réglementation pour la protection des données.
Des données personnelles.
Personnelles,
faut bien citer là-dessus. Oui. Parce qu'on n'a pas de réglementation pour des données non personnelles, mais c'est un texte par exemple qui a influencé un texte qui vient d'être voté à l'État de Californie, qui s'appelle le Californian Consumer Privacy Act. Donc qui est un texte en fait qui s'est inspiré du RGPD, et qui a d'ailleurs aussi évolué de façon intéressante, et je pense que c'est nous, l'Europe, on doit aussi les regarder comment c'était. Texte évolue dans d'autres endroits du monde. Alors le positionnement de Thierry Breton est pour moi intéressant, ambitieux et nécessaire, à savoir te dire, il faut qu'on existe indépendamment des autres. J'aime pas le côté de se séparer, mais en tout cas exister indépendamment des autres, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas collaborer, parce que c'est vrai que quand on présente ça, on a souvent tendance à mettre les États-Unis et la Chine au même niveau, et je trouve que c'est assez injuste, parce que les États-Unis, encore une fois, sont quand même beaucoup plus proches de nous que de la Chine, même s'ils ont énormément de données, qu'ils ont énormément de sociétés, de grands géants de la tech, ils ont quand même beaucoup plus proches de nous, à savoir, je parlais tout à l'heure donc du texte en Californie, il y a aussi la reconnaissance faciale qui a été interdite dans les rues de San Francisco, donc on n'est pas si éloigné que ça en tout cas.
Ah, c'est ce que disait donc ce matin Aurélie Jean sur RTL, les docteurs en sciences des matériaux et de mécanique numérique, elle est auteur de L'autre côté de la machine. On peut dire effectivement qu'il y aurait dans ce grand combat de bras de fer, Nathalie Nevejans, possibilité de se faire comprendre des États-Unis, comme elle le dit, plus que de la Chine, ou est-ce que tout ça c'est un peu égal?
Je sais pas. Moi, j'imagine plutôt l'intelligence artificielle à l'européenne comme plutôt une méthode pour obtenir un avantage compétitif au niveau mondial.
Donc, on est toujours dans le combat, d'une certaine façon.
On est toujours dans le combat.
On ne prend pas les armes de l'adversaire.
C'est nous qui avons les armes, on a créé le RGPD, on est suivi, donc c'est nous qui sommes devant.
Raja Chatila ?
Oui, eh bien, dans cette bataille, le nerf de la guerre, c'est les données. Et c'est pour ça que Thierry Breton a beaucoup parlé de données, et que ce matin, l'un des documents s'attache justement à définir un espace de données partagé européen dans 9 domaines, comme la santé par exemple, mais aussi l'agriculture, mais aussi l'énergie, etc., pour mettre un cadre au partage des données au niveau européen. Donc ça, c'est relativement nouveau.
Alors expliquez-nous, nous qui ne connaissons pas très bien ce sujet, ça veut dire quoi partager les données, par exemple dans le domaine de la santé, puisque nous avons avec nous David Giblins de Malakoff-Médéric. Ça veut dire quoi partager ces données au niveau européen?
Alors, si vous voulez, les États-Unis, quand on parle des États-Unis, d'ailleurs, il ne faut pas parler des États-Unis au sens d'un État, mais il faut parler des entreprises, parce que c'est là que ça se passe. Et ça se passe chez Facebook, ça se passe chez Google, et c'est la puissance américaine, elle est surtout là. D'ailleurs, Mark Zuckerberg était à Bruxelles, et il a
discuté avec Thierry Breton il y a 3 jours.
Avec Thierry Breton, et il a dit qu'il était favorable à une réglementation. Bon, donc, il y a une évolution, une inspiration intéressante. Donc, les données qui sont produites tous les jours sont des données qui appartiennent aux entreprises qui les exploitent. À partir du moment où on a beaucoup de données, et des données différentes qui sont partagées, on peut arriver à des résultats beaucoup plus précis et de meilleure qualité.
Ça serait donc de demander aux entreprises d'ouvrir leurs données, c'est cela ?
Alors, dans un cadre, voilà, c'est de donner un cadre à cette ouverture de données, à ce partage de données au niveau européen.
On sait très bien tout de même, David Gymlas, que beaucoup d'entreprises sont réticentes, justement, parce que ces données leur appartiennent, à les ouvrir à d'autres, parce que c'est, on est dans le domaine d'une concurrence entre entreprises. J'imagine que si vous, avec d'autres groupes d'assurance européens, vous devez partager vos propres données, vous n'êtes pas tout à fait favorable à ouvrir totalement ces données, parce ça pourrait casser la concurrence.
Non, mais bien sûr, c'est un patrimoine important de l'entreprise. Je pense que il faut raisonner à partir des finalités qu'on cherche à faire à partir de ces données, parce que les données en soi, c'est bien, mais quel usage on veut vraiment en faire. Et donc, on a un très bon exemple en France, puisque en France, on a créé donc le Health Data Hub, donc grâce à notre ministre de la Santé, dans lequel on est bien sûr partie intégrante, puisqu'on a un projet qui consiste à mettre en commun des données qui viennent donc de l'assurance maladie et de Malakoff Humanist. Donc ça montre bien que on a déjà pris le sujet en main en France, et d'ailleurs son nom indique bien qu'on a l'ambition de l'étendre au niveau de l'Europe. Et moi je reste persuadé que autant sur ce qu'on appelle les données individuelles, c'est difficile maintenant de faire face, autant sur les données entreprises, donc dans le B2B, que ce soit dans la santé, dans le monde B2B, du transport, de l'énergie, etc. On a tout un champ justement sur lequel on peut exploiter ces données et faire la différence.
Discute pas, Carl, c'est moi qui commande. Ouvre la porte A.
Dave, je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Adieu.
Hello everyone, I'm an English artificial intelligence anchor. This is my very first day in Xinhua's agency. My voice and appearance are modeled on Zhang Zhao, a real anchor with Xinhua. The development of the media industry calls for continuous innovation and deep integration with the international advanced technologies.
Hi Monica, what are you? Are you human or what?
Hi, I'm Leon.
Affaire numéro 1108, prévisualisée par les PrécoG, enregistrée sur Holosphère par les archives de Précrime. Mes collègues témoins pour l'affaire 1108 sont le docteur Catherine James et le président de la Cour, Franck Collard. Bonjour.
Bonjour.
Les témoins veulent-ils prévisionner et valider le numéro 1108 maintenant ?
Arrêtez, Dave.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
J'ai peur.
Des extraits de 2001 Odyssée de l'espace, de Minority Report, mais également un présentateur virtuel de journaux télévisés mis au point par des chercheurs chinois, ou encore Monica, un prototype d'avatar humain mis en place par Samsung. Pour cette virgule qui nous permet de dire que vous êtes sur France Culture, vous écoutez le temps du débat, avec un thème qui titre « Existe-t-il une intelligence artificielle à l'européenne ?» Nos invités, Nathalie Neuvegence, juriste, David Gymlas, directeur innovation digitale et data du groupe Malakoff-Médéric, et Raja Chatila, qui est membre du comité d'experts de haut niveau de la Commission européenne sur ces questions. Raja Chatila, quand on parle de ces questions de données, on se dit il y a les données personnelles, ça a été précisé tout à l'heure, et il y a les données industrielles. Quelle est la différence et pourquoi l'Europe veut-elle mettre le paquet sur les données industrielles ?
Eh bien, les données personnelles, ça concerne des individus, comme.
C'est ce qu'on laisse, ce sont les traces qu'on laisse sur les réseaux, par exemple, chaque fois qu'on se branche sur un réseau.
Exactement. Et c'est là-dessus que les entreprises américaines, dont Google, Facebook, etc., ont bâti leur puissance en mettant les moyens pour que les individus s'adressent à leurs outils et fournissent les données.
Dans un contexte aussi de western juridique où Absolument. Il n'y avait pas de juridiction sur ces questions-là, ou très peu.
Tout à fait. Donc c'est le Far West, donc il n'y a pas de juridiction, et elles ont exploité largement ces données sans demander bien sûr l'avis de leurs propriétaires, et pour faire des choses qui ne sont pas forcément d'ailleurs tout à fait conformes à ce que les propriétaires des données auraient voulu, en particulier par exemple pour influencer des élections. Donc c'est ce qu'on appelle B2C dans le jargon, hein, business to consumer, c'est le consommateur. Et alors qu'il y a donc les B2B, donc business to business, c'est-à-dire les données qui sont produites par des entreprises, qui peuvent être exploitées par des entreprises, Et c'est là que résident les filons qui n'ont pas tellement été exploités, alors que qu'ils sont beaucoup plus importants que les données personnelles, en fait. Et c'est là-dessus que l'Europe veut bâtir sa puissance, en fait. Donc tout le cadre qui a été annoncé aujourd'hui consiste pour les données consiste à donner le cadre réglementaire, le cadre économique, le cadre financier, hein, pour que l'Europe ait en coopération avec les États. Puisse finalement jouer sur ce gisement-là.
Nathalie Nevejans, cette question, on a l'impression, c'est lié à la confiance. On parle d'Internet, d'intelligence artificielle digne de confiance. Mais c'est lié aussi à la protection, pas simplement des données, mais à les protections de l'homme ou des humains, d'une certaine façon.
Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la question. C'est développer l'intelligence artificielle, favoriser l'innovation. Ça, c'est notre pari en Europe. Mais également, face à ça, protéger l'humain. Donc ça, c'est vraiment notre credo européen.
Mais évidemment, quand on sait ce que sont devenues nos données qu'on a confiées à ces grands géants américains, on a un peu peur, effectivement, qu'on ne soit pas protégé. On voit bien combien il est difficile aujourd'hui de rattraper les données qu'on a laissées dans les grands groupes américains et californiens, par
exemple.
Tout
à fait, mais ça ne s'arrête pas aux données. C'est vraiment l'ensemble des questions qui peuvent poser, qui peuvent interroger l'humain. Par exemple, on parlait tout à l'heure de la surveillance de l'humain. Quand vous avez des réseaux sociaux qui peuvent influencer le vote, c'est quand même une question importante. Quand vous avez une surveillance vidéo des personnes dans les villes, quand vous avez, par exemple, un risque que l'intelligence artificielle influence la volonté de l'humain, influence sa décision. Donc il va y avoir un impact total sur les personnes et parfois leur insu. Par exemple, on peut penser au cas du médecin qui va utiliser les algorithmes d'aide à la décision et qui risque de se trouver véritablement ou peut-être sans qu'il le sache ou peut-être que c'est juste une idée, qui risque de se trouver dépouillé de son pouvoir décisionnel au niveau médical.
Et ça, David Giblas, vous devez y réfléchir hein, en travaillant à Malakoff-Bédéric. Et vous ne devez peut-être pas voir d'un si bon œil en tant qu'entreprise l'arrivée d'une régulation, alors que pour l'instant, elle n'est pas tout à fait présente, cette régulation-là.
Oui, je pense que la régulation, est-ce qu'on va avoir un RGPD de l'IA ou de l'algorithme? Parce que quand on parle d'IA, il y a les données d'un côté et l'algorithme de l'autre. Je pense que c'est deux sujets quand même à ne pas perdre de vue.
Expliquez-nous la différence.
En fait, les données, bien sûr, il y a quel type de données vous utilisez. Y a-t-il des biais dans ces données? Parce que malheureusement, la nature humaine est quand même plutôt biaisée. L'entreprise, de fait, est aussi biaisée. Et donc, il y a un grand travail à faire pour que ces données soient le plus équitables possible, sans discrimination, etc. Puisque les algorithmes vont apprendre sur ces données. Donc si ces données sont biaisées, de fait, l'algorithme va générer des décisions qui seront biaisées.
Puis après, c'est ce qui s'est passé il y a quelques temps.
Il y a quelques exemples qui ont fait la une de la presse. Je pense que si on n'est pas prudent, c'est pas quelques exemples dont on parlera comme ça, il y aura des vrais accidents industriels. Voilà, d'où ma conviction que la confiance, c'est une responsabilité du dirigeant au plus haut niveau de l'entreprise. Puis après, il y a les algorithmes. Donc ces algorithmes apprennent automatiquement, et il faut vérifier qu'ils apprennent bien, qu'il n'y a pas de déviation dans le temps, qu'ils ne soient pas corrompus, qu'ils soient robustes, répétables, parce qu'il y a des vrais sujets pour répéter toujours les mêmes décisions sur la base de jeux de données, et ça c'est un environnement assez nouveau qu'on découvre, parce que cette science, même si elle date de quelques années, des dizaines d'années, elle n'est pas finie, elle progresse. Et donc ça veut dire monter donc une régulation qui permette de suivre de tout ça quasiment au quotidien, parce qu'on est obligé de réguler régulièrement, de contrôler tout ça, je pense que c'est assez compliqué, on n'est pas encore au bout.
Oui, parce que Rajesh Attila, on a eu quelques scandales. On se souvient d'un scandale pour les données personnelles, c'était celui de Cambridge Analytica, par exemple. Donc on se dit, bon, s'il y en a eu un, il pourrait y en avoir d'autres. Donc il pourrait y avoir des malfaisants qui utilisent justement ces bases de données, cette intelligence artificielle, pour pouvoir tromper, pour pouvoir aussi peut-être tromper un pays tout entier.
Oui, mais pas seulement des malfaisants. Je veux dire, si on regarde simplement les problèmes de hacking ou de malfaisance, on se trompe, parce qu'en réalité, les données qui sont utilisées vont refléter des biais sociaux. Et donc, c'est les demandes d'application. Si vous utilisez, par exemple, vous avez parlé de Minority Report tout à l'heure, hein, si vous utilisez l'intelligence artificielle, les algorithmes d'intelligence artificielle pour faire de ce qu'on appelle de la justice prédictive, c'est utilisé. Et il y a des entreprises qui vendent ça. Et des institutions judiciaires qui utilisent ça, en particulier aux États-Unis, mais justement le Conseil de l'Europe d'ailleurs a élaboré une charte sur ce point-là. Eh bien, ça signifie que, de mon point de vue, il y a un remplacement de la justice qui est une justice qui est faite par les hommes, pour les hommes, donnée par les hommes. Je dis les hommes de manière générique, ouais. Évidemment. Hein. On la remplace par une automatisation de prise de décision qui sont issues de statistiques. C'est-à-dire que la personne n'est pas jugée en elle-même, la personne est jugée par rapport à son appartenance statistique sur la base de données qui peuvent être tout à fait biaisées.
Oui, mais on voit bien effectivement l'intérêt que, par exemple, une justice engorgée pourrait trouver à automatiser des décisions de justice. On voit bien l'intérêt, et c'est toujours très présent, de la question de la reconnaissance faciale, avec tout un tas de gens qui disent, tout compte fait, on va pas y réfléchir, on va y aller. C'est une question qui pousse, d'une certaine façon, les opinions publiques, mais aussi qui pousse les hommes et les femmes politiques à prendre des décisions, peut-être sans réfléchir aux conséquences éthiques dont on parle depuis le début de cette émission.
Oui, alors justement, ce n'est pas tout ou rien. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de dire oui, on fait la reconnaissance faciale ou non, on ne la fait pas. Dans certaines circonstances, elle est utile, voire nécessaire. Dans d'autres, elle ne l'est pas. Et dans tous les cas, il faut mettre des garde-fous. Et ces garde-fous, eh bien, ils sont déjà dans les principes fondamentaux de l'Union européenne sur la liberté individuelle, par exemple. Ils sont déjà dans ce que a rappelé Nathalie tout à l'heure sur le respect de la vie privée, etc. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut interdire strictement telle ou telle technologie. Mais, par exemple, quand on considère des applications critique pour les libertés humaines, critique pour justement les principes fondamentaux qui sont les nôtres, eh bien là, il faut légiférer, interdire ou réguler.
Nathalie Devejean, c'est ça l'IA responsable, l'intelligence artificielle responsable dont vous êtes responsable d'une chaire?
Tout à fait. Donc cette idée, c'est vraiment, dans la chaire par exemple, on va essayer non seulement de répertorier l'ensemble des points critiques qui pourraient justement montrer les risques pour l'humain, mais également pour l'environnement du développement de l'intelligence artificielle. Mais nous allons essayer également de transformer ces principes théoriques en quelque chose de pratique.
De concret.
Parce que c'est très bien d'avoir de grands principes, mais comment les appliquer concrètement sur le terrain? Et le problème avec ce passage du théorique au concret, c'est que ça dépend. Ça dépend les domaines. Dans la santé, on n'aura pas les mêmes façons de procéder, le même travail que par exemple dans l'industrie. Donc ça va être un gros travail de vraiment réfléchir à une application concrète de ces principes théoriques pour le moment. Et d'ailleurs, nous allons également travailler sur le développement d'un système logiciel pour aider les entreprises à vérifier que leur outil ou leur produit est éthique.
Et cela, David Gymlas, vous en discutez avec d'autres directeurs innovation digitale et data dans d'autres types d'entreprises. Est-ce qu'il y a une sorte de réflexion commune des entreprises, que ce soit des entreprises de santé comme la vôtre, puisque vous êtes à Malakoff Médéric, ou d'autres entreprises qui utilisent ou commencent à utiliser cette intelligence artificielle simple dont vous nous parliez tout à l'heure?
Oui, vous savez, il y en a beaucoup qui en parlent et peu qui en font vraiment. Hein. Donc là aussi, il y a quand même pas mal d'entreprises. D'ailleurs, on fait une étude régulièrement tous les ans. Il y a à peine 20% des entreprises qui déploient de manière, on va dire, industrielle, l'intelligence artificielle dans leur entreprise. Et 80% qui en parlent en faisant des expérimentations, mais qui ne le déploient pas donc au quotidien dans leur entreprise. Donc oui, bien sûr, on en parle pour ceux qui sont les plus avancés. Et je pense que derrière, peut-être en synthèse de notre côté, c'est que une IA responsable, c'est avant tout une IA explicable. Voilà, et je pense qu'il y a un vrai sujet autour de l'explicabilité. Vous savez qu'il y a pas mal de thématiques,
soir, mais
voilà, mais dire que pour le médecin, par exemple, qui utilise une IA pour diagnostiquer un cancer du poumon, eh bien, s'il n'est pas en mesure d'avoir une explication donc du pourquoi l'algorithme préconise par exemple un tel traitement, eh bien, il aura un mal fou à suivre, et c'est légitime, la décision de l'algorithme. Donc il y a tout un sujet autour de l'explicabilité et l'interprétabilité. Il y a déjà des chercheurs, notamment en France, qui travaillent dessus, mais je pense que cette question de responsabilité passera aussi par l'explicabilité.
Sur sur ce point, Raja Chatila, il y a un député LREM des Yvelines, Didier Bécher, qui vient de s'exprimer sur France Info et qui dit pour l'intelligence artificielle, il faut une consultation citoyenne effective. Est-ce que vous pensez justement que cette question de faire descendre au plus bas de la société, dans tous les domaines de la société, de faire descendre une discussion, un débat, genre grand débat, est-ce que c'est la bonne solution pour faire la pédagogie de cette intelligence artificielle, ou est-ce que c'est trop éloigné de ce que nous faisons, ce que vous faites vous-même en tant que chercheur?
Je pense qu'il faut consulter toutes les parties prenantes, donc les citoyens aussi. Mais c'est la forme de consultation qui est importante. S'exprimer sur un sujet signifie qu'on doit être bien informé sur le sujet en question, et je pense que c'est là que nous avons une responsabilité collective, aussi bien au niveau de du monde académique que du gouvernement, que du monde industriel, pour expliquer exactement de quoi il s'agit.
C'est-à-dire sortir des idées reçues qu'on a pu avancer au tout début de cette émission.
Voilà, exactement.
L'intelligence artificielle, c'est pas simplement des robots, par exemple.
C'est voilà. Donc de quoi l'on parle? Quelles sont les implications? Qu'est-ce qu'on propose? Comment on veut réglementer ça? Voilà les sujets du débat qui s'accompagnent d'une éducation. Et l'éducation, d'ailleurs, est l'un des points essentiels qui est très important pour le déploiement de l'intelligence artificielle.
Mais est-ce que l'Europe est le bon endroit pour pouvoir discuter de ça? On sait les tensions européennes sur tout un tas de sujets économiques, politiques, des approches très différentes selon les pays de l'Europe. Est-ce que si on fait descendre au niveau le plus bas dans chacune de nos régions, dans chacune des nations européennes, cette discussion, est-ce que vous pensez que ça risque pas de faire exploser justement ce beau projet européen tel qu'il nous a été présenté tout à l'heure?
Moi, je pense que personne ne veut utiliser une technologie qui n'inspire pas confiance, c'est justement le terme. Hein. Mmh. Le citoyen, l'industriel, le gouvernement, personne ne veut utiliser une technologie qui n'inspire pas confiance. Et donc, c'est pour ça que nous avons une sorte de devoir, effectivement, d'expliquer de quoi il s'agit pour que la confiance s'installe. Et elle peut s'installer différemment dans différents pays.
Et cela, j'imagine qu'avec les étudiants, les professeurs, les chercheurs qui vont se rassembler, par exemple, autour de votre chaire ANR, Nathalie Nivegen, c'est votre intention, c'est-à-dire de réfléchir collectivement avec tout un tas de gens qui s'intéressent à ça et peut-être créer des masters, des choses comme ça qui permettront à des jeunes chercheurs de s'intéresser à cette dimension éthique de l'intelligence artificielle.
Tout à fait. Donc c'est l'objectif de cette chaire. Alors des masters, c'est un peu trop parce que c'est une chaire de 4 ans, donc on n'aura pas le temps pour créer un master. Mais je vais mettre en place des certificats de compétences, notamment en deep learning, avec une formation.
Deep learning.
Le deep learning, c'est l'apprentissage profond, donc les réseaux de neurones. Donc, et c'est justement ce domaine en intelligence artificielle dans lequel on a le phénomène de la boîte noire, le phénomène qui a été critiqué, qui doit être expliqué, etc. et ouverte. Donc, on va essayer de mettre en place des certificats de compétences sur ces questions pour à la fois former les jeunes juristes et non juristes au deep learning, mais également les avertir des risques, des avantages en termes éthiques et juridiques. Donc ça va être des petits diplômes qu'on va essayer de mettre en place, mais néanmoins, et là je rebondis sur ce que disait Raja parce que c'est vraiment extrêmement important, la formation des personnes, la transmission vers les citoyens. D'ailleurs je pense qu'ici cette émission est parfaite pour remplir cette mission. Prévenir les personnes, les avertir, leur expliquer de quoi il s'agit.
Et leur expliquer que c'est en cours.
Ne pas leur faire peur.
Que ça n'est pas fermé, que c'est encore ouvert et qu'on peut encore en discuter pendant pas mal de temps.
Tout à fait. Ne pas leur faire peur, ça c'est très important aussi.
Merci en tous les cas à tous les trois d'avoir été aussi pédagogues les uns et les autres pour expliquer les enjeux de cette intelligence artificielle à l'européenne. Merci à vous Raja Chatila. Je rappelle que vous êtes directeur du laboratoire d'excellence SMART et que vous êtes aussi membre du comité d'experts de haut niveau de la Commission européenne sur ces questions. Merci à vous Nathalie Nevegen. Vous êtes maîtresse de conférence en droit privé à l'Université d'Artois où se tient cette chaire ANR de l'IA responsable. Et merci David Giblas, directeur de l'innovation digitale et data du groupe Malakoff Médéric. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Rémi Baille, Hugo Boursier et Manon Prissé. À la technique aujourd'hui, Jean-Guilain Meige, et à la réalisation, Alexandre Manzanares.